Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographie, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon ?
Hey !
Tire-toi !
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Jordan Peele avec un retour sur la carrière de celui qui débuta dans l'humour, que l'on se rappelle, Kinou, et qui produit et parfois écrit et réalise des séries hein, aussi, telles que par exemple Lovecraft Country, The Twilight Zone, la quatrième dimension, Hunters et Weird City hein, sur le net. Mais surtout, qui est parmi ce qui est arrivé de mieux au cinéma fantastique et à l'ASF ces dernières années, via ses trois films pour le grand écran, Get Out, Us et Nope. L'un des films de l'année, je crois qu'on peut le dire, même si il y aura débat, car il y a toujours débat dans notre rédaction. Et nous allons revenir longuement donc sur la carrière de ce Jordan Peele, qui n'est pas un inconnu, n'est-ce pas, les amis hein. Je suis entouré de mon équipe habituelle, l'équipe au complet, d'ailleurs. Hein. Alors, honneur à la jeunesse, avec Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
À partir de maintenant, c'est honneur à la vieillesse, hein, je me mets dedans, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors donc, il y a aussi dans ce studio John Ferret, dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Salut John.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et puis, comment dire, celui sans qui cette émission ne serait pas vraiment cette émission. Celui qui a commencé à renverser son thé sur la console, à répandre des détritus partout dans le studio. Je veux bien sûr parler de cet animal fou, de ce loup-garou picard. Ce loup-garou picard qui est le créateur quand même de À l'écoute du cinéma. Une émission où ça grogne pas mal, hein, diffusée sur RCA. Et puis chaque nuit de pleine lune, il rédige avec ses griffes crochues des sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est également rédacteur en chef. Inutile de vous dire que les bouclages des nuits de pleine lune sont particulièrement mouvementés. Bonjour Thomas Roland.
Bonjour Damien, bonjour Gégé, bonjour John. Je précise aussi que Jérôme Potier a une petite tendance à l'exagération quand même.
Nous allons voir aujourd'hui si j'ai vraiment tendance à exagérer, voilà, durant cette émission, hein, puisque Thomas me met au défi. Eh bien, on va parler donc de celui sur lequel, depuis maintenant quelques années, hein, depuis son film Get Out, en vérité, hein, la profession ne tarit pas d'éloges, hein, et en particulier les amateurs de fantastique. Hein, puis c'est assez récent, puisque Get Out, c'est 2017. C'est donc Jordan Peele, qui au départ est un humoriste. Il est scénariste, il est producteur, enfin il fait plein de choses, mais au départ est plutôt un humoriste, hein, qui est un pur New-Yorkais, hein, qui est né en 79 à New York, donc qui est encore jeune, hein, et qui se fait connaître sur Comedy Central avec la série télé Key and Peele, et puis qui va enchaîner pas mal de choses à la télévision. Mais mon cher Damien, tu vas nous en dire plus sur ce début de carrière de Jordan Peele, qui est peut-être moins connu. Parce qu'il a eu une carrière avant le fantastique où il ne faisait que dans l'humour, en fait. Son arrivée dans le fantastique a été un peu une surprise.
Jordan Peele, à l'international, était vraiment un inconnu. Pour les Américains, il le découvre vraiment à partir de 2003, où il débute sa carrière sur Mad TV, qui est une adaptation de l'inspiration de Mad qui se veut d'actualité et qui parodie l'actualité. Et c'est grâce à ça qu'au fur et à mesure, il va gagner en réputation. C'est là-bas qu'il va rencontrer son ami Keegan Michael Key, qui sera du coup le duo dans Key and Peele. Du coup, il débute en 2003. Il faut attendre vraiment 2012 pour qu'il lance Key and Peele sur, comme tu l'as dit, Comedy Central, qui va être un véritable carton au point que ça va donner certains mèmes et gifs sur Internet comme Peele Sweating, qui est l'un des mèmes de Peele le plus répandu. Et avec cette série, ils vont gagner énormément en réputation au point que la Fox va même les engager tous les deux pour jouer dans la première saison de Fargo. Ils ont des rôles mineurs pas très intéressants, mais ils sont présents. Et à travers l'expérience qu'ils gagnent tous les deux, ils vont sortir du coup un premier film qui est Key New, qui est réalisé par Peter Atencio et coécrit par Jordan Peele ainsi que Alex Rubens, qui sont deux personnes, Rubens et Atencio, qui ont déjà travaillé sur Key and Peele et qui reviendront travailler avec lui dans la série The Twilight Zone. Bah, généralement, le film a été assez apprécié, même si Jérôme, je sais que tu n'étais pas vraiment dans ce mood-là.
Je suis pas un gros fan de Key New. Quand je l'ai vu, en fait, le film avait plutôt une bonne réputation. Et moi, j'aime bien les comédies. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait à une enfilade de sketch qui disait pas son nom. Donc il y avait voilà, il y a quelques moments du film qui me font rire, mais je trouve pas voilà que ce soit bon. Ça vaut pas Will Ferrell à son meilleur ou Ben Stiller à son meilleur. À leur meilleur, hein, je dis bien, hein, parce qu'ils ont eu des eux aussi ont fait des très mauvaises choses, surtout Will Ferrell. Mais Will Ferrell, pour moi, est un pur génie. Hein. Donc, quand il est à son meilleur, c'est extraordinaire. Et je ne retrouvais pas ça chez Jordan Peele. Je ne retrouvais pas ce génie, cette folie, cette dinguerie qu'il y avait chez Will Ferrell. Parce que moi, vous avez compris, je suis assez fan de Will Ferrell. Voilà.
Et au final, on reproche un peu à Key News ce que tu viens de dire, que c'est un enchaînement de sketchs qui fait en fait ce qui paraît logique, vu qu'on retrouve quand même un réalisateur et un scénariste qui ont travaillé sur Key and Peele. Et au final, s'ils ont la chance de faire ce film, c'est grâce finalement à l'explosion de leur carrière dans cette série. Et là arrive en 2017 Jordan Peele, que personne n'avait vu venir, du coup, grand comique américain qui sort Get Out, qui a un succès stratosphérique, rapportant 56 fois plus que son budget initial, et repartant avec l'Oscar du meilleur scénario original, devenant le tout premier afro-américain à le remporter, et le premier afro-américain à être cité du coup dans cette catégorie, celle de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur producteur. Et après du coup ce succès incroyable, il va enchaîner les productions.
Oui, Get Out qui part de l'admiration de Jordan Peele pour un sketch d'Eddie Murphy qui raconte son angoisse à l'idée d'être présenté à ses beaux-parents par sa copine, à ses beaux-parents blancs. Voilà. Donc l'idée part de là et Jordan Peele va en tirer un film très particulier, un très bon film. C'est un tout petit budget. C'est la révélation aussi d'un acteur, Daniel Kaluuya, hein, qu'on retrouve dans Nope, qui a pris quelques kilos hein, depuis. Il s'est largement renforcé le bétail. Il a dû faire il est devenu monstrueux. Il pourrait jouer dans Expendables 4 hein, s'il y en avait un. Mais là, il est tout flué. C'est un jeune homme. Il vit de grand amour avec sa copine. Et puis il arrive dans cette famille étrange et tout le génie de ce film. Que Jordan Peele n'arrive pas à s'expliquer d'ailleurs, hein, il le dit dans le documentaire au Horreur Noir, c'est-à-dire que un documentaire sur le cinéma d'horreur et les noirs dans le cinéma d'horreur, qui est un très bon documentaire qu'on vous conseille, où Jordan Peele intervient à plusieurs reprises, et il le dit dans ce documentaire, il dit « je pensais pas en fait, il a fait ce film pour les noirs ». C'est vraiment un film fait pour le public noir, et il pensait pas que le film allait rencontrer un tel succès. Évidemment, il arrive dans cette famille, tout paraît merveilleux, mais en fait, on découvre que non, tout n'est pas merveilleux, et ça devient une sorte de métaphore sur l'esclavage moderne. On a aussi évidemment abordé en sous-texte la notion des bavures policières. D'ailleurs, il modifie la fin du film. C'est très fort, c'est un coup de génie. En fait, on peut le voir sur le DVD. Hein. Bon, Get Out, comme sorti depuis 2017, donc on peut voilà expliquer que bon, à la fin, le héros s'en sort. Il pète la tronche à tout le monde, mais ils l'ont bien mérité, voilà. Et il s'en sort. Et au moment de sortir, il y a une voiture de flic qui arrive. Et dans la version initiale voulue par Jordan Peele à l'époque, le gamin se faisait embarquer et c'en était fini, quoi. Et on savait très bien comment ça allait finir. C'était une fin qui lui était influencée hein, par la Nuit des Morts-Vivants de Romero, en fait, qui est vraiment un film primordial hein, pour la communauté noire, La Nuit des Morts-Vivants. Ouais, puisque...
Extrêmement marquant dans Horreur Noire. Et il le dit, on vous conseille le documentaire, il le dit, il fait que de base, la fin qu'il voulait, c'était... que le héros se fasse tuer par la police en tant que bavure policière. Sauf que c'est arrivé au moment où le mouvement Black Lives Matter a une seconde résurgence et qu'il voulait pas montrer ça et qu'au final il s'est dit qu'il allait montrer qu'il était en prison. Et c'est au dernier moment qu'il s'est vraiment décidé à dire non, qu'il fallait un héros noir avec une fin d'un héros.
Mmh. Et donc c'est son pote qui conduit la voiture de police, on ne dit pas pourquoi, mais qui arrive avec la voiture de police et qui l'embarque, et puis c'est fini, et puis ils ont gagné, ils ont réussi, voilà. Mais, et cette fin change tout, hein, puisque effectivement, c'est le Black Power, quoi. À la fin, c'est les Noirs qui gagnent, quand même, dans un contexte qui est particulier, parce qu'il écrit Get Out, ça c'est intéressant, parce qu'on va continuer après sur les autres films de ce qu'il a fait, même ce qu'il a fait pour la télé, mais il écrit Get Out dans un contexte, il le dit encore dans ce documentaire Horreur Noire, qui est vraiment un documentaire très intéressant, hein, effectivement, qu'il écrit Get Out en fait en réaction aux réactions, excusez-moi pour la redondance, des intellectuels aux États-Unis, parce qu'à l'époque Obama est élu et il y a beaucoup d'intellectuels qui disent ça y est, le racisme disparaît aux États-Unis, le racisme est aboli. Et lui, il n'y croit pas, Jordan Peele. D'ailleurs, la suite lui a donné raison avec l'élection de Donald Trump. Et lui, ce qu'il veut expliquer, c'est que non, le racisme aux États-Unis, il est toujours là. Et donc, il se sert de ce postulat de films d'horreur, petit budget, Blumhouse, hein, produit par Jason Blum, qui est jamais en retard d'un bon coup à saisir, le loustique. Et puis, il fait ce film qui va être un carton. Et on passe d'une série B horrifique qui va se retrouver aux Oscars. C'est quand même assez étonnant. Alors, les détracteurs vont dire que c'est politique, parce que c'était dans l'air du temps. Peut-être, mais le film est vachement bien quand même.
Avec le succès de Get Out, ben, Jordan Peele monétairement se met extrêmement bien, ce qui va le permettre derrière d'aider à la production de Black Landsman, de lancer Weird City en 2018, qui est une anthologie de sketchs de science-fiction se passant dans une ville séparée en deux par une ségrégation économique, les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. C'était l'époque où YouTube voulait devenir le nouveau Netflix qui... spoiler, qui n'a pas marché. Et j'aime bien la série, même si c'est pas super drôle. On retrouve un casting incroyable avec Mark Hamill, Rosario Dawson, Michael Cera et Steven Yeun, pour ne citer que Steven qu'on va retrouver pour Nope.
Ce qui est intéressant dans Weird City, même si c'est loupé... Alors, ces travaux télévisuels sont pas extraordinaires. Voilà, c'est toujours bien, sans être extraordinaire. C'est toujours bien, c'est assez classique en fait. Dans un contexte où les séries télé quand même explosent pas mal le cadre ces dernières années, par exemple, c'est bien en deçà des Watchmen, c'est bien en deçà de... voilà. Mais où il y a une écriture un peu plus développée, je veux dire. Il fait des choses plus simples. Je pense qu'il fait des trucs qui lui font plaisir, en fait. Voilà. Et puis les trucs plus complexes, il les garde pour le cinéma. Mais ce que... Weird City, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe quelque chose que moi, je trouve très fort dans le discours de Jordan Peele. C'est qu'il sous-tend la question raciale à la notion de classe économique. Ça, c'est un discours qui n'est pas si fréquent que ça aux États-Unis, y compris chez les grands intellectuels, qui est très, très intéressant. Parce que si tu es noir et riche, il y a quand même moins de problèmes pour toi que si tu es noir et pauvre. Voilà, ou latino et pauvre, et voilà. Donc c'est intéressant, et ça sous-tend... Et c'est quelque chose qu'on retrouve, y compris qu'on retrouve dans Us, son deuxième film en 2019.
Ouais, qui vient juste après Weird City. Comme si Weird City avait servi d'entraînement pour Us, du coup, qui sort un an après. Où là, Jordan Peele, suite aux critiques qu'on lui a un peu fait sur Get Out, disant que c'était une confusion des genres, dit « Ok, je vais faire un film 100% horrifique ». Et du coup, c'est intéressant parce qu'il dit, parmi ses inspirations, qu'il s'inspire de la Twilight Zone, du coup, quatrième dimension, dont il fera le remake la même année. Et il pense différemment la façon dont il fait son film par rapport à Get Out. Il s'inspire notamment du film de Wes Craven, dont je n'ai plus le nom avec...
Le sous-sol de la peur.
Exactement.
Voilà. Qui est un film qui a beaucoup marqué la communauté noire, puisque le héros est un petit garçon noir. Voilà, donc c'est pour ça que ça... Mais c'est un très bon film, d'ailleurs. Avec Thomas, on l'avait défendu d'ailleurs ce film, parce qu'il a reçu un accueil très très mitigé de la critique. Moi, je trouve que c'est meilleur que Get Out. Je trouve qu'à chaque film, en fait, Jordan Peele progresse en tant que metteur en scène. c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire qu'il va finir par nous pondre un vrai chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Mais s'il continue sur sa lancée. Mais je trouve qu'il progresse. Et je trouve que Us est vachement mieux mis en scène que Get Out. Alors, certainement aussi, c'est un film où il y a plus de moyens. Et après, il y a la petite référence à Shud que j'aime bien, qui est un film que j'aime bien. Mais disons qu'à une époque où tout le monde est très méta, il fait un film qui est ce côté années 80, parce qu'il y avait un gros revival des années 80 avec Stranger Things et tout ça et tout. Stranger Things, la série qui aurait dû s'arrêter au bout d'une saison, voilà, parce qu'à partir de la saison 2, c'est quand même. La série s'auto-cite, s'auto-caricature un peu jusqu'à l'excès. Mais. Oula, je vais me faire des ennemis, je le sens. Mais bon. Et avec ce film, moi, je trouve que les 10 premières minutes. Je retrouve carrément le John Carpenter de Asso, le John Carpenter d'Halloween. Je suis terrorisé. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il y a une grosse tension. Et je trouve ça excellent. Et puis après, le film continue. Alors, le film est peut-être un peu long. Le film a peut-être quelques défauts. Et puis, il y a un défaut qui est quand même aussi... qu'on retrouvera, on va en reparler après, peut-être pour Nope aussi, parce que je vais en parler. Mais les personnages sont toujours esquissés, mais jamais complètement définis. Ça me pose problème parfois. Alors, dans Us, ça s'explique un peu, parce qu'il y a une révélation dans le film qui fait que, bon, voilà. Dans Nope, peut-être un peu moins. Mais dans Us, ça s'explique un peu. Et le film est quand même, moi, je trouve très, très impressionnant en termes de mise en scène. Moi, au cinéma, j'étais scotché à mon fauteuil pendant tout le film. J'ai trouvé que c'était un excellent film. Et un des rares films vraiment fantastiques qui faisait peur, produit aux États-Unis ces dernières années. Il n'y a pas tant de films que ça qui font vraiment peur, en vérité. Sans jumpscare, hein, je veux dire. Et puis, ce qui est intéressant dans Us, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que... Il y a des critiques qui n'ont rien compris. Hein. Avec cette famille de blancs arrivistes et très matérialistes, voilà. Mais en fait, cette famille de blancs, c'est juste la version blanche de cette famille noire. Et c'est ça qui est très drôle, en fait. Et c'est là qu'on rejoint ce discours de classe, en fait, et qui n'est pas simplement bêtement un discours racial, un discours woke, bas du front, comme on peut avoir comme le remake de Black Christmas, où c'est très très mauvais comme film. Là, on a quelque chose de très intelligent. Et là, je me suis dit, bon, il est fort ce Jordan Peele. C'est pas encore un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un très bon film.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Dès Get Out, et si on regarde, parce que maintenant on a un petit recul par rapport à la filmographie de Jordan Peele, on voit déjà les graines qui sont semées sur Get Out, qui vont commencer à pousser sur Us, et qui vont arriver, pas encore peut-être à maturité, mais qui vont vraiment arriver sur Nope. C'est quelqu'un qui est passionnant dès son premier film, qui confirme pratiquement l'essai sur le deuxième, parce que c'est vrai que ce pur moment de cinéma dès le début du film est incroyable, mais c'est quelqu'un qui rajoute toujours une dose d'étrange, qui sait instaurer un vrai climat de tension, qui sait diriger ses comédiens, parce que moi je trouve dans Us le père énormément marrant, on voit là aussi que Jordan Peele vient aussi de la comédie, mais il arrive à mélanger ces genres, et en plus si on prend même encore un peu plus de recul, c'est quand même quelqu'un qui arrive dans cette nouvelle génération de réalisateurs de films d'horreur, Ari Aster et autres. Et je trouve que lui s'en sort mieux. Ça, c'est très subjectif, c'est mon opinion à moi. Mais je trouve que, comme tu l'as précisé, Jérôme, c'est quelqu'un qui, normalement, devrait arriver à nous proposer quelque chose de formidable bientôt.
Meilleur qu'Ari Aster, ça, il n'y a pas de souci.
C'est pas du cinéma figé et poseur comme Ari Aster, quoi. C'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus... c'est pas prétentieux, quoi. Il ne fait pas du cinéma. Regardez, moi, je suis un intellectuel.
C'est un peu le défaut de la Elevated Horror, ce qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, hein, c'est, qui est voilà, une sorte d'intellectualisation du cinéma de genre, ce qui est une expression en fin de compte assez récente dans l'histoire de la critique cinématographique, cinéma de genre, et qui ne veut pas dire grand-chose en fait, en vérité, même si on l'a fait correspondre à fantastique, polar, horreur, voilà, en gros, mais bon, et c'est vrai que je pense que la différence particulière de Jordan Peele avec... par exemple, Ari Aster, qui a des qualités, hein, mais qui a des qualités de metteur en scène, mais qui effectivement a des petites, voilà, un petit côté. C'est un peu comme Eggers. C'est meilleur Eggers. Hein, moi, j'aime bien The Witch, j'aime bien The Limehouse et tout ça, mais il y a toujours un petit côté arty dans tout ça qu'on retrouve pas chez Peele. Je pense que Peele, c'est un vrai passionné de EC Comics, de fantastique à l'ancienne, qu'il a grandi. D'ailleurs, la preuve, on va arriver sur la quatrième dimension. Quand il refait la quatrième dimension, il y a une vraie volonté de s'inscrire dans la quatrième dimension de Rod Serling. Et pas du tout de dynamiter le truc et de se mettre au standard des séries télé d'aujourd'hui qui vont plus loin dans la violence, dans le sexe. Non, lui, il reste sur le... Alors, on peut lui reprocher. Moi, je lui reproche un petit peu, d'ailleurs. Mais ça reste quand même une chouette série, quoi. Son Twilight Zone, il y a quelques épisodes qui sont assez impressionnants. Et puis, il y en a un qui me plaît beaucoup dans les deux saisons. C'est Pas tous les hommes que j'adore cet
absolument
épisode.
Génial.
Qui est un épisode de dingue, je trouve.
Ouais, la même année, The Twilight Zone qui arrive juste derrière, où Jordan Peele est en partie scénariste, surtout producteur, et fait le nouveau narrateur. De cette quatrième dimension. Il y a des épisodes marquants, comme tu l'as dit, Pas tous les hommes, qui est incroyable. Il y a aussi Replay, que j'aime beaucoup et qui retrouve une thématique que Jordan Peele aime bien. Et tu retrouves aussi des épisodes références, comme Cauchemar à 30 000 pieds, où tu retrouveras la peluche du Gremlins de la première Twilight Zone. Et tu as aussi le dernier épisode de la saison 2, Autre suggestion, qui fait revenir quelqu'un qui est très important de la quatrième dimension et qui fait un choix assez particulier et qui est très cool dans justement cette version de la Twilight Zone, c'est que chaque saison se termine avec un épisode méta que je trouve toujours extrêmement intéressant et vraiment très prenant. Et après The Twilight Zone, l'année suivante, il enchaîne sur une autre production qui est Lovecraft Country, et je pense que Thomas a déjà lu le bouquin et qui pourra nous donner au mieux son avis.
Je pense que dans les travaux télé de Jordan Peele, Lovecraft Country est sa meilleure série. C'est sa meilleure production. Je pense que c'est sa plus complexe, sa plus aboutie. Il part d'un roman de Matt Ruff, un roman où il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs histoires. En fait, c'est un peu comme si c'était des petites nouvelles, mais c'est toujours le même personnage, en fait, qui d'abord part dans une région des États-Unis où la ségrégation raciale est très forte, à la recherche de son père qui a disparu. Et là, il fait une analogie entre le monde de Lovecraft et la ségrégation raciale, les monstres de Lovecraft, un peu, c'est un peu l'émanation du mal, du racisme, etc. Et, alors lui, il part de ce postulat-là, et du livre, il en fait autre chose, parce qu'il va aussi ailleurs. Parfois, il durcit le ton, il durcit les discours. Je pense à un épisode dans une maison hantée qui est traité vraiment différemment. Pas seulement au niveau du traitement, mais au niveau de l'histoire aussi, il change des choses. Il met des thématiques qui reviennent souvent dans son cinéma. Là, il parlait aussi d'homosexualité qui est absent du livre. Et d'une façon assez crue quand même. Hein. Pour de la télé, c'est... La façon dont il montre ça, c'est chaud, quoi. Et surtout au niveau de la mise en scène, alors pour de la télévision, vous connaissez mon rapport aux séries télé, hein. Je trouve que au niveau de la mise en scène, pour de la télévision, c'est vachement bien foutu. Et surtout, c'est qu'il ose quelque chose, c'est quand même une série historique, vu que ça se passe dans les années 50-60, et il fait un truc, et ça fonctionne à fond, c'est qu'il met des musiques beaucoup plus récentes, comme des musiques des années 80. Sur une séquence de commémoration, à un moment, il utilise les Bananarama, alors que on est dans les années 60, hein, d'un massacre qui a eu lieu à Tulsa. Et après, il met en scène cet épisode de l'histoire, parce que les personnages y reviennent dans le temps, c'est assez complexe, hein. Il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, et parfois ça va assez loin dans l'horreur, hein. Et il y a ce passage qui est quand même assez violent, La façon dont il met en scène le massacre de Tulsa, c'est assez violent. Pour de la télévision, je trouve que c'est quand même assez ambitieux. Et d'ailleurs, Lovecraft Country, dont il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs fils narratifs. Et il y a des gens qui ont lâché d'ailleurs, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors que moi, je trouve que la série est passionnante de bout en bout. Et il ajoute même des choses qui ne sont pas dans le livre, notamment un passage qui se passe en Corée, qui est assez crade d'ailleurs.
Alors après, sur l'audace et sur la mise en scène, c'est vrai que t'es pas très familier des séries télé, mais sur ce qu'on montre dans les séries télé aujourd'hui et sur la manière dont on les met en scène, il est plutôt dans le format du haut du panier, mais il n'est pas différent d'autres séries télé. Je voulais le dire quand même, parce que voilà, de telles ambitions, une telle violence, un discours politique aussi fort, ça se retrouve dans d'autres séries télé quand même. Voilà. Après, j'aime bien parce qu'il a... C'est vrai que j'aime beaucoup Lovecraft Country. Hein. Je suis d'accord avec toi, Thomas. Je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux à la télévision. Et il y a aussi le côté Sam Raimi, quoi. Voilà. Il aime bien Sam Raimi et ça se sent dans les mouvements de caméra, dans les scènes gore et tout. Il y a un petit côté Sam Raimi qui est vraiment présent. Mais comme toujours chez Jordan Peele, les influences sont très très bien digérées. C'est peut-être ça qu'on pas, comme tu dis, hein, qui a fait que la critique est restée mitigée, ou tout du moins là. Les fans de Lovecraft sont restés mitigés puisqu'ils s'attendaient à peut-être quelque chose de Lovecraft. Moi, j'adore Lovecraft. J'ai lu tout Lovecraft, j'adore Lovecraft. Mais je pense qu'il ne fallait pas s'attendre de la part de Jordan Peele à une retranscription fidèle de Lovecraft. Lui, c'est un auteur. Donc, il s'approprie l'univers de Lovecraft. Il le mélange à d'autres univers. Et il y met aussi la question raciale qui est prégnante aux États-Unis, évidemment. Et le côté Jim Crow, tout ça et tout, qui est très présent dans la série, quoi. Et c'est évidemment du pur Jordan Peele avant d'être... Il n'aurait peut-être pas dû l'appeler Lovecraft Country. Il aurait dû l'appeler autrement. Ça n'aurait peut-être pas créé cette mésentente, on va dire.
Mais même dans le livre, hein, Hitor, il ne s'attache pas à la mythologie Lovecraft... pur sang, mais ce qui est aussi ce qui est notable dans la série, ce qui revient souvent dans ses productions ou ses réalisations, c'est ce tabou de l'homosexualité dans la communauté noire, qui est là traité d'une façon très crue. Bah, alors, vraiment très crue, hein, pour de la télévision, alors, tu vas peut-être me dire que ça s'est déjà vu.
Largement, The Wire, avec d'ailleurs le même acteur, hein, oui. Michael Williams, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein, super acteur avec sa balafre là, qui est le premier, d'ailleurs c'était le héros de série préféré de Barack Obama. Pourquoi ? Parce que c'était Omar le Barge dans cette série magnifique qu'est The Wire, où il fait un tueur, mais c'est un personnage génial, d'ailleurs c'est un tueur mythologique, parce que Omar le Barge ne peut pas mourir, ne meurt jamais, c'est une légende qui se reproduit, qui est quelque chose, une légende urbaine, mais une véritable légende urbaine. Moi, c'est mon personnage de série préféré, en fait, Omar le Barge. Comme Barack Obama, je ne suis pas très original. Hein. Mais bon, j'adore ce personnage, j'adore l'acteur, qu'on avait vu aussi dans la très bonne série de Martin Scorsese, Boardwalk Empire. Et puis, il avait fait aussi les... Bon, la série s'est arrêtée. J'aimais beaucoup cette série. Il reprenait un des deux personnages de Joe Lansdale, Happ and Leonard, où il était très bon dedans aussi, Michael Kenneth Williams. Et donc, dans Lovecraft Country, ouais, il est assez chouette. Et donc, oui, Thomas, pour répondre à ta question, oui, le personnage noir homosexuel est fort, en plus est viril, ce qu'il y avait dans la série The Wire, parce qu'en plus il terrorisait tout son quartier, hein, c'était un tueur impitoyable.
Robin des Bois.
Il y avait un côté Robin des Bois, bien sûr. Et la scène où il va chercher sa bouteille de lait est mythique, voilà, pour ceux qui ont vu la série. Donc voilà, non, c'est pas nouveau, mais on peut imaginer très certainement que par contre, ça a profondément marqué Jordan Peele, ça c'est sûr.
Ça l'a profondément marqué et c'est intéressant parce qu'on parle quand même d'une légende noire qui ne meurt pas et ça fait lien avec un an plus tard, un film qui produit, qu'il scénarise, si je ne m'abuse, qui est Candyman de 2021.
On a beaucoup parlé du film de Nia DaCosta très très récemment dans l'émission et on a fait un comparatif entre les deux Candyman. Moi je l'aime bien, c'est un film que j'aime bien. Je voulais juste dire quand même avant, parce qu'on n'en parle jamais, il a quand même fait un plantage total, hein, Jordan Peele, c'est ça pour la télé, la série Hunters avec ces chasseurs de nazis menés par Al Pacino, qui est une série qui... bah, de mauvais goût, moi, je trouve, voilà, qui est loupé dans... Ils ont voulu tenter quelque chose dans la forme qui, pour moi, ne passe pas. Voilà, c'est... Pour moi, c'est une série loupée. Bon, la série connaîtra pas de suite, de toute façon, donc... Mais je trouve que c'est là, là, il s'est un peu planté. Bon, il était plus en retrait sur cette série. Hein. C'était un
des producteurs. Il était juste producteur.
Il n'était pas scénariste, rien du tout. Par contre, il n'en a pas réalisé. Mais c'est un peu un petit plantage, je trouve, dans sa carrière presque parfaite.
Moi, j'ai bien aimé, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il parle toujours de l'homosexualité, notamment cet agent du FBI, une femme noire homosexuelle dans les années 70, et dont la famille accepte son homosexualité. Moi, je trouve que là, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. J'y crois pas à ça.
Vous saviez que le tout premier film créé à partir d'un assemblage de photos était un plan de 2 secondes montrant un homme noir sur un cheval? Eh bien, cet homme, c'est mon arrière-arrière-grand-père.
Arrière.
3 fois arrière-grand-père. Voilà pourquoi Orange Hayward, l'unique centre de dressage de chevaux appartenant à des noirs à Hollywood. On se plaît à dire que depuis que les images bougent, ce métier, on l'a dans la peau.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Jordan Peele.
Le film qui va animer la deuxième partie de cette émission, c'est Nope. Nope, ben non, hein, au Canada, c'est ça la traduction, je crois. On va garder Nope, qui en impose plus en termes de mystère, quand même. Hein, voilà, et qui est, enfin, au Québec. Ben non, c'est au Québec. Et ben, qui raconte l'histoire d'un... Enfin, ça démarre avec Otis. Otis senior, Otis junior, ils sont ensemble. Ils ont un ranch. Ils élèvent des chevaux pour le cinéma. Hein, et ils sont les descendants du premier cow-boy filmé dans l'histoire du cinéma, qui est un noir, et donc dont ils sont descendants. Même si dans le film... Il baratine un peu autour de cette histoire parce que, alors, l'histoire est vraie. Par contre, le nom cité et tout n'est pas le vrai nom. Voilà, c'était pour le rattacher à l'histoire de Nope. Et puis un jour, il y a un truc qui tombe du ciel. C'est un peu étrange. Et puis le père meurt, en particulier à cause d'un œil crevé, quoi. L'œil, le regard, c'est au centre, hein, de Nope. C'est pour ça que je pense que c'est pas un hasard. Et lui se retrouve à gérer le ranch. Et bon, j'ai l'impression que lui, il préfère plutôt, à mon avis, élever des chevaux que gérer le ranch, voilà. Et puis, il y a sa sœur, Emerald, qui débarque, qui est jouée par Keke Palmer, alors qu'on a plaisir à revoir, puisque depuis, moi, j'aime bien la série Scream Queens, que personne n'aime. Mais moi, je l'avais adorée dans cette série, Keke Palmer. Elle a fait plein d'autres trucs, mais moi, pour moi, c'est Scream Queens, voilà, avec Emma Roberts, avec moi, voilà. J'avais beaucoup aimé cette série de Ryan Murphy, qui est quand même un type un peu barré, puis qui, pour le coup, lui, pour la représentation de l'homosexualité à l'écran, c'est pareil, c'est quelqu'un de très important ces dernières années dans la communauté gay à Hollywood. Bon, malheureusement, il ne sévit qu'à la télé, pour toi. Moi, je ne fais pas de trucs pour le cinéma. Et puis, cette sœur arrive, alors urbaine, qui rêve de célébrité, qui veut passer chez Oprah, et puis elle se met à travailler avec lui. Et puis un jour, ils se rendent compte que il y a un truc dans le ciel, quoi. Voilà. Et que ce qui est arrivé à leur père, c'est peut-être pas la soute d'un avion qui s'est ouvert avec des bagages qui leur sont tombés sur la tronche. C'est peut-être autre chose. Et puis en l'occurrence, ben, c'est peut-être bien un extraterrestre, hein, qui se cache dans les nuages. Et puis en parallèle, il y a une intrigue qui se développe dès l'introduction avec une sitcom. Avec un singe. D'ailleurs, ça démarre par une introduction uniquement sonore. On ne voit pas les images pendant que les sociétés de production et de distribution du film apparaissent à l'écran, on entend cette histoire qui est un épisode d'une sitcom qu'a inventé Jordan Peele, qui s'appelle Gordy et compagnie. Et puis il y a un ballon qui éclate à un moment, quand ils sont en train de filmer la scène, mais la sitcom filmée en direct, hein, donc avec du public, c'est le principe des sitcoms. Et le singe devient fou, il massacre tout le casting. Et puis petit à petit, on va découvrir qu'en fait, y a le voisin du ranch qui tient, lui, une sorte de gigantesque parc d'attractions, mais un peu cow-boy avec lequel travaille aussi Otis Junior, hein, qui est en fait le gamin qui a survécu à ce massacre. Et tout ça est important et il va falloir relier tout ça dans l'intrigue. Et c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui parce que le film a suscité pas mal de débats, de trucs sur Internet, de différentes interprétations. Et on va essayer de vous donner les nôtres et puis de vous donner aussi notre avis sur le film.
Ben oui, encore une fois, là, il reprend encore ce fameux schéma que moi j'adore encore chez Jordan Peele, une première scène qui va mettre tout le monde dans une sorte de confusion totale. On entend ce qui se passe, on voit un décor, on voit un singe, on voit du sang sur la main d'un singe. On se dit tiens, et après on passe directement à autre chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, et autant le dire tout de suite, j'ai adoré, c'est cette faculté, parce que le postulat de départ ne m'attirait pas spécialement, c'est-à-dire un ranch, des chevaux, un extraterrestre qui se cache dans les nuages. Bon, qu'est-ce que nous fait Jordan Peele ? Mais pourquoi pas ? J'y suis allé parce que quand même, il faut aller voir ça. Et moi, j'ai été très étonné, quoi. En fait, c'est les dents de la mer, mais à l'envers, quoi. Je trouve que c'est un grand, grand hommage au suspense que Spielberg avait pu mettre dans les dents de la mer. Il y a une séquence incroyable où l'alien va aspirer plein de spectateurs, on spoil, hein. C'est quelque chose qui m'a réellement effrayé dans cette séquence-là, puisque Jordan Peele, encore une fois, nous montre que le cinéma, c'est pas que des images, c'est aussi du son, c'est aussi de la mise en scène. Et là, ce film donne vraiment hommage à tout ça. Il y a une scène de poursuite qui est assez incroyable, vachement bien mise en scène. Il y a chez ce mec-là, si je devais noter Nope par rapport aux trois autres métrages, je vais mettre Nope en premier parce qu'il m'a vraiment, vraiment, vraiment emballé. Et alors c'est peut-être aussi le fait que le contraste entre l'attente qui n'était pas grande et le résultat du film m'a vraiment comblé. Mais je trouve que ce mec-là est vraiment passionnant sur un postulat qui au départ n'est pas évident, puisque avoir un alien qui se cache dans les nuages pour chasser les autres, on peut se dire que c'est quand même assez casse-gueule, et il y arrive merveilleusement bien. Et il y a aussi un bel hommage au cinéma, notamment la scène où il amène un cheval pour faire une pub. On voit un peu d'ailleurs tout le côté suffisant de la production, mais surtout à la fin, on ne veut plus du cheval et on veut surtout mettre quelque chose de vert sur un fond vert, puisque ça n'a plus besoin de réalité ou de fond, tout ça. Donc je trouve qu'il y a une belle réflexion sur le cinéma. Il y a une sacrée maîtrise du suspense et il nous fait encore découvrir autre chose.
C'est pas forcément celui que je préfère. Moi, j'aime beaucoup Us, hein, mais je trouve que là, pour moi, c'est son plus ambitieux. Parce que la façon dont il construit son film, il fait beaucoup de flashbacks. Parce que pendant un bon moment, on ne sait pas où il va en venir. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on se dit, c'est un vaisseau spatial, c'est les prémices d'une invasion extraterrestre, etc. Mais alors que c'est complètement autre chose. Et surtout, de la façon dont il construit son film, il n'hésite pas à couper des personnages en plein milieu d'une phrase pour faire un flashback, pour revenir sur autre chose. Et il y a plein de zones d'ombre comme ça, notamment toute cette histoire avec Gordy, là, qui l'amène petit à petit, hein, parce que c'est vrai que commencer son film là-dessus, c'est assez étrange quand même. Hein. Mais pour moi, oui, c'est son plus ambitieux, son plus abouti au niveau de l'écriture. Et moi j'aime bien, je trouve que les personnages sont bien. Je trouve pas qu'ils sont esquissés. Moi, j'aime beaucoup le personnage interprété par Keke Palmer, qui est très drôle. Hein. Puis on retrouve encore ses obsessions, hein, traiter de l'homosexualité, etc. Et surtout, c'est vrai qu'au niveau de... Enfin, il propose un grand spectacle. Alors, c'est vendu comme un blockbuster. Est-ce que c'en est vraiment un ? Bon, un blockbuster peut être aussi un film d'auteur, hein, je veux dire... L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais est-ce que c'en est vraiment un ? Apparemment, le film était attendu pour un film qui est vendu comme un blockbuster. Il y a quand même une sacrée réflexion sur l'image, la façon dont on perçoit l'image. Est-ce que l'image peut nous apporter ou pas ? Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a un personnage, hein, qui est un YouTuber qui finit mal d'ailleurs. Donc il y a toute cette réflexion sur le rapport qu'on peut avoir à l'image, à la célébrité, à ce que l'image peut nous apporter, la célébrité ou pas, et aussi est-ce que l'image finalement ne finit pas par nous dévorer.
En fait, j'ai un regret dans le film, j'aimerais que le personnage de Steven Yeun soit plus développé. C'est un regret que j'ai par rapport au film. Je trouve que c'est un personnage très intéressant, parce qu'en fait il est central dans le film. Parce que c'est un personnage primordial, puisque cette affaire de Gordy qui vient en parallèle, elle irrigue tout le film, en fait. Voilà, elle irrigue tout le film parce que lui aussi, il vit prisonnier dans une image, dans un rapport à l'image et dans une représentation raciale aussi de la communauté asiatique. D'ailleurs, Keke Palmer, quand elle vient la première fois le rencontrer dans son parc d'attractions et qu'elle voit qu'il a un petit musée perso avec des souvenirs de Gordy et compagnie, elle lui dit « Ah, mais c'était toi l'Asiatique de Gordy et compagnie ». Elle ne se rappelle pas de son nom. C'était l'Asiatique de service, en fait. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est une manière aussi de dire, dire pour Jordan Peele, il vaut mieux des personnages incarnés que des quotas, quoi. Hein, ça prouve l'intelligence du mec, quand même. Hein. C'est pas n'importe qui, quand même. Donc le regret, c'est un peu ça par rapport au personnage. Le personnage de geek qui travaille à la boutique, on n'en sait pas trop sur lui, il vient, il les aide. Il est rigolo, hein, mais il n'est pas très développé. Keke Palmer est en fin de compte une urbaine assez caricaturale qui veut passer à la télé, qui veut passer sur les réseaux sociaux, qui est libérée, qui est homosexuelle, qui vit à la ville. Et puis lui, le ranchero renfrogné, c'est des personnages assez caricaturaux, quand je les décris comme ça, en tout cas. Après, l'utilisation qu'il en fait, c'est autre chose. Hein. Ou ce cinéaste, ce chef-op un peu dingue, qui peut un peu rappeler une sorte de John Huston, qui est un peu étrévadé de chasseur blanc, cœur noir, d'Eastwood. Voilà. Mais j'aurais bien aimé... Je m'attache pas trop au personnage, en fait. Plus à Keke Palmer, d'ailleurs, qui est un peu, avec l'abattage qu'elle a, le côté sympathique qu'elle dégage, on s'attache plus à elle. Et puis, elle est quand même dans une très belle scène, hommage au Akira de Katsuhiro Otomo. Dès que je l'ai vu au cinéma, j'ai dit « Ah, il l'a fait en live !» Bon, ça sert à rien, les gars. Essayez pas de faire le remake du Akira, parce que je sais qu'ils sont en train de bosser dessus, là. Et ça me fait peur. Enfin, c'est pas Jordan Peele qui bosse dessus. Mais au final... Ce qui me plaît dans le film, c'est d'abord, c'est un film très angoissant. Il y a une grande maîtrise de la mise en scène et des effets spéciaux, parce qu'en fait, c'est un des films où il y a le plus d'effets spéciaux ces dernières années, parce qu'en fait, la quasi-totalité des plans du ciel sont tous truqués. Donc, il y a un nombre de plans truqués qui est complètement hallucinant. On s'en rend jamais compte. Il n'y a absolument pas des pattes. C'est super bien utilisé. Il y a une grande maîtrise de l'espace. Il a une façon d'utiliser l'espace qui est quand même assez grandiose parce qu'il utilisait très bien les petits espaces dans Get Out. Et plus il avance dans ses films, je trouve que plus ses plans deviennent larges, plus il s'accapare l'espace, plus son cinéma grandit, moins il a peur de filmer les grands espaces. En cela, il se rapproche un peu plus, de plus en plus, des grands cinéastes classiques américains dans sa mise en scène. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique que le film a un format un peu particulier. Quand il était projeté, le format est un peu particulier. Et c'est certainement dû à la manière dont il veut s'approprier l'espace. C'est un peu désarçonnant au départ, mais c'est particulier. Et après, dernière chose que je voulais dire sur le film, c'est le côté... la manière qu'il a de digérer ses influences, il n'a pas le côté petit malin que peuvent avoir des cinéastes méta qui utilisent la culture populaire, parce qu'il y a plein de références en fait dans le film à la culture populaire, dont quand même, il fait un peu le malin parce que tout le monde se rappelle d'un tweet en 2014 où Jordan Peele dit « Voilà, j'ai rêvé cette nuit qu'un singe massacrait tout le monde et puis qu'à la fin, il venait me faire un check et je me suis réveillé en pleurs et tout ça. » Et tout le monde a ressorti ce tweet de 2014 pour dire « Ouais, il a mis son propre cauchemar, un peu comme Argento le fait dans ses films. Il a mis son propre cauchemar dans Nope. Sauf que 2 ans avant, il y a une histoire avec un chimpanzé qui s'appelle Travis. Travis, en fait, il est élevé par un couple d'adultes et le mari meurt à un moment. Travis, c'est un singe star, hein, c'est un chimpanzé star qui fait plein de publicité. Dans sa ville, il est très connu, il fait des photos avec les enfants, tout ça et tout. Bon, il a été élevé comme un enfant par ce couple qui n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, Travis est en colère, il essaye de piquer la voiture. Alors la veuve est inquiète et elle appelle une de ses meilleures... D'abord, elle donne un tranquillisant à Travis, ça ne le calme pas du tout. Elle appelle une de ses meilleures amies. Une de ses meilleures amies qui vient l'aider, hein, voilà. Et puis malheureusement cette femme, ben elle subit le sort du casting qu'on voit dans le cercle. Elle se fait détruire par le singe, voilà, par ce Travis, et elle finit par apparaître quelques années plus tard chez Oprah Winfrey. Donc elle a perdu la vue, elle est sourde et elle était complètement défigurée. Et donc quand elle vient chez Oprah Winfrey, enfin elle est filmée. Je crois qu'elle est filmée chez elle et c'est diffusé dans le show d'Oprah Winfrey. Elle est habillée exactement comme l'actrice qui porte la voilette. Elle porte la même voilette et tout ça que ce qu'on voit dans Nope. Donc là, il utilise quelque chose de la culture populaire américaine et il le transpose dans son film. Il le fait très bien d'ailleurs. Hein. Et puis après, il y a tout un délire, bon, peut-être... en parler un peu, histoire de la godasse, machin, tout ça, bon, qui a fait un peu triper les internautes. Bon, pour moi, je pense que c'est tout simple. Je pense que, d'ailleurs, il le dit à un moment, Otis Junior, c'est juste un mauvais présage. Voilà, donc cette godasse dans la tête du personnage incarné par Steven Yeun, cette godasse, c'est pas qu'elle vole, c'est que lui, il la voit comme ça, voilà, et que c'est ce mauvais présage inexplicable. Et je pense que quand il touche, quand le singe vient le toucher, je pense juste qu'il rentre dans une sorte de symbiose avec l'animal et il se dit qu'après, il peut dresser n'importe quel animal, d'où son obsession d'ailleurs de vouloir dresser l'extraterrestre, qui, à mon avis, s'explique comme ça. Bon, après, c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas... La godasse extraterrestre, j'y crois pas. Voilà. Puis Jordan Peele, il a dit, de toute façon, je vous expliquerai rien, vous vous démerdez.
Ouais, la godasse est assez particulière, vu que c'est l'un des premiers éléments visuels du film, parce qu'au début, comme on l'a dit, on a juste le bruit. Au départ, on a une explosion, on ne sait pas trop ce que c'est. On a une citation biblique qui apparaît, qui prend son sens au fur et à mesure. Personnellement, je pense que la godasse, c'est juste Jordan Peele qui s'est dit on va mettre un détail. Enfin, ce serait extrêmement gratuit, mais mettre un détail qui attire le regard et qu'on oublie. Je pense pas que c'est Steven le personnage qui joue, qui l'imagine, parce que on a un autre plan d'une autre vue qui fait tout le tour du plateau et qui arrive, elle est déjà là. Mais c'est vrai que le rapport avec Gordy est intéressant parce que mentalement, il survit à un truc assez dur. Et c'est le seul qui survit. L'animal envers lui est assez doux. Et en fait, ça lui met dans une posture de se dire qu'une sorte d'idée d'élu. Mais c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, il y a toute la question du don de tâche qui revient et qui est assez centrale. Il y a aussi un truc au niveau de l'appropriation qui est intéressant parce que, comme tu l'as dit... on a ce truc de premières images avec un noir qui est à cheval. Steven dit qu'il est le premier à avoir fait le check de l'histoire. Finalement, il se pose ici en tant que les fondateurs de quelque chose au fur et à mesure. Moi, j'avais des attentes extrêmement hautes pour le film, justement, parce que Jordan Peele m'a régalé à chaque fois et le résultat a réussi à dépasser toutes mes estimations. Donc, j'étais absolument comblé. C'est un film que j'ai adoré pour ses nombreuses thématiques. On le compare du coup aux Dents de la Mer parce que c'est ce qu'il voulait faire. Et tu retrouves un peu aussi le même effet que tu as dans Predator. C'est-à-dire que tu as beaucoup de plans où tu regardes le ciel et tu essayes de détecter l'OVNI, mais ils sont incapables de le voir. D'ailleurs, il y a des plans de mouvement d'OVNI que je trouve incroyable. C'est un truc que j'avais jamais vu au cinéma. C'est quelque chose qu'on voit sur les vidéos officielles de l'armée qui filme souvent les OVNI, mais c'est quelque chose qu'on voyait pas au cinéma, justement, parce qu'on était toujours pris dans une certaine façon de filmer un objet qui vole. Moi, le film m'a parlé immédiatement, c'est la thématique du Weird West, qu'on retrouve, qui est assez rare, qui est en fait l'introduction d'éléments de science-fiction ou de fantastique dans tout ce qui est l'imaginaire de l'Ouest américain, qui est extrêmement rare au cinéma, qui est déjà un peu introduit indirectement dans Lovecraft Country, lorsqu'il commence et qui nous parle de John Carter, qui rentre pile dans ce Weird West. Ou d'ailleurs, indirectement, dans Lovecraft Country, il parle aussi de Lovecraft, parce que l'OVNI extraterrestre a ce côté aussi lovecraftien que tu retrouves dans Néon Évangélion, avec ce côté dantesque et incompréhensible de la forme qu'elle crée. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est l'effet assez Scooby Gang que forme le tout l'équipe dans Nope, qui est absolument génial, qui a un humour, il a un humour magnifiquement dosé, même dans les scènes de haute tension, réussir à faire rigoler alors qu'on stresse, c'est un jeu qu'il arrive magnifiquement à faire. Je trouve que
même quand le youtubeur arrive là, c'est en fin de compte, oui, c'est drôle, c'est tragique mais c'est drôle.
Oui, c'est une introduction absolument géniale. Bah, c'est littéralement le moment Scooby Gang. Ils ont un plan, chacun un rôle. On sait qui sera la PAC, qui doit démasquer le truc à la fin, absolument parfait. Nope, qui revient, enfin qui est un titre. Par contre, qui est, je pense que Jordan Peele a eu beaucoup de mal à trouver ce que c'était parce qu'au final, ça introduit le film, ça introduit aussi un chapitre parce que c'est un peu chapitré. On l'a pas dit. Au niveau du film, et qui revient dans certaines scènes où il y a un moment où il doit soit sortir de sa voiture, il ouvre juste, il regarde le ciel et il rentre en faisant « Nope, je ne sors pas de là, je reste planqué là où je suis ». Il y a aussi des références que j'aime beaucoup. Pour revenir, ça va faire un lien. Tu as dit que tu trouvais que les personnages étaient esquissés, mais je trouve qu'ils sont magnifiquement esquissés. Justement, c'est ce qui fait que, au lieu d'utiliser le cliché de l'asiatique ou du noir, tu vas avoir des personnages qui sont vraiment dans le truc, c'est-à-dire que le héros, Daniele, veut faire que du dressage, mais il veut aussi que ça fonctionne, même si sa spécialité, c'est pas vendre et tout. C'est pour ça qu'il y a une scène où on le voit crafter un objet qui a effrayé un cheval au début, et tu comprends qu'il veut réussir à faire fonctionner. Et tu as plein de petites scènes comme ça qui montrent finalement ce que chacun est sans être cliché, c'est-à-dire que le vendeur qui les aide aurait pu être ce youtubeur, enfin ce twitcher, tiktoker ou autre réseau social à la fin qui apparaît. Et il y a aussi beaucoup de références qui reviennent, notamment avec le roi scorpion qui apparaît d'abord comme un gag et qui à la fin a ce côté un peu drôle de le voir avec tout le développement justement sur le domptage. Ce qui je suis absolument d'accord, c'est le film est super bien écrit. Il y a quelque chose qui n'avait pas marqué dans ces films jusqu'à là, c'est la musique qui est prenante. À plusieurs moments, j'étais vraiment dans l'action et j'arrivais pas à me détacher de la musique et en même temps de ce qui se passait. Donc oui, j'ai adoré Nope. Pour moi, c'est son meilleur film. Et dès qu'il voudra faire un autre, je remettrai à nouveau mes attentes extrêmement hautes dans l'attente de voir un bon présage se produire.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.